France Culture.
Mais avant, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction de Mathilde Romagnon. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Rachida Dati est candidate à la mairie de Paris, mais elle est toujours membre du gouvernement, alors que l'exécutif entame une période de réserve liée aux élections municipales. Explication à suivre dans ce journal. Avec notre invité, on évoquera la nomination d'Amélie de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes. Elle qui était jusqu'à présent ministre des comptes publics. Cela relève-t-il du conflit d'intérêts? Nous lui poserons la question. Le cannabis reste la drogue la plus consommée en France, selon une étude, sur un marché où l'ecstasy et la cocaïne prennent de plus en plus de place. Qui est El Mencho, le chef du cartel mexicain dont la mort provoque une vague de violence au Mexique? Et la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, contestée après des propos contre Israël tenus sur la chaîne Al Jazeera. Sébastien Lecornu a procédé à un ajustement gouvernemental avec la nomination de David Amiel au poste de ministre de l'Action et des Comptes Publics. Il remplace Amélie de Montchalin, qui devient, elle, présidente de la Cour des Comptes. Nous y reviendrons avec notre invité. Mais on attendait d'autres nominations dans cet ajustement, notamment le départ de Rachida Dati du ministère de la Culture, elle qui est candidate à la mairie de Paris. On l'attendait d'autant plus que l'exécutif entre dans une période de réserve liée aux élections municipales. Depuis hier, la communication des ministres est fortement réduite pour assurer la neutralité de l'État. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Mathilde.
Chef du service politique de France Culture. Stéphane, cet après-midi, Rachida Dati est entendue par la commission d'enquête parlementaire sur la sécurité des musées. Donc elle occupe toujours ses fonctions de ministre.
Beaucoup s'interrogent dans le camp présidentiel sur ce départ qui tarde à être officialisé par l'exécutif. Il y a quelques jours encore, l'entourage du Premier ministre affirmait aux journalistes qu'a priori tout serait réglé au plus tard le 22 février, que tous les ministres susceptibles d'être remplacé le serait avant la période de réserve. Et Sébastien Lecornu lui-même expliquait à des parlementaires sa volonté de faire en sorte que ce soit le cas. Mais finalement, à moins de 3 semaines du premier tour des municipales, Rachida Dati est toujours là, tout comme la ministre aux personnes handicapées Charlotte Parmentier-Lecocq, la ministre des Sports Marina Ferrari et le ministre de la Ruralité Michel Fournier, eux aussi potentiellement sur le départ. Certains affirment que c'est Dati elle-même qui fait durer le plaisir, le président lui ayant laissé le choix de partir quand elle le souhaite. D'autres expliquent que le président serait rentré fatigué de son déplacement en Inde et qu'avec le salon de l'agriculture, il n'aurait pas eu le temps de finaliser le choix des remplaçants avec Sébastien Lecornu. Matignon, de son côté, expliquerait ce retard par la motion de censure déposée ce matin par le Rassemblement National sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle n'a aucune chance d'être adoptée, mais le Premier ministre ne voudrait pas, dit-on, faire de mauvaise manière à l'Assemblée et souhaiterait attendre le résultat du vote de cette motion. Depuis plusieurs semaines, Matignon va faire de ce mini-remaniement qu'il appelle « ajustement gouvernemental » un non-événement, mais ça pourrait en devenir un en cas de non-avènement.
Merci Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Amélie de Montchalin, on l'évoquait tout à l'heure, a pris ses fonctions à la tête de la Cour des comptes, elle qui était, il y a quelques jours seulement, ministre des comptes publics. Nomination critiquée, la Cour des comptes étant chargée de contrôler les choix budgétaires qu'elle a elle-même construits en tant que membre du gouvernement. Il y a une inquiétude autour d'un possible conflit d'intérêts. Bonjour Thibault Mullier.
Bonjour.
Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Nanterre, chercheur du Centre de théorie et analyse du droit. Merci d'être l'invité de France Culture. Thibault Mullier, est-ce que c'est habituel de nommer quelqu'un d'un ministère à ce poste ?
Alors, ce qui est relativement habituel, c'est que des profils politiques soient nommés au sein d'institutions qui ont qui exercent une fonction qui est caractérisée par rendre des décisions qui doivent être indépendantes vis-à-vis du pouvoir politique. Là, la chose qui est quelque peu inédite, c'est que Madame de Montchalin a été nommée alors qu'elle est ministre en exercice et d'autant plus ministre en exercice en charge des comptes publics. Elle n'a été, on a mis fin à ses fonctions que hier soir pour une prise de fonction ce matin, mais le décret de nomination date du 11 février. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inédit.
On peut comprendre la polémique qui s'ensuit dans ce cas ?
On peut la comprendre dans le sens où c'est quelque chose qui, d'autant plus depuis un certain nombre d'années, je dirais depuis les retraites et encore plus avec la dissolution, eh bien il y a un renouveau du droit constitutionnel et de ses problématiques dans le champ médiatique et dans le champ public, ce qui fait que par voie de conséquence, il y a plus d'intérêt là-dessus. Après, il faut nuancer, ce n'est pas le premier président, Monsieur Macron, qui nomme un proche et un profil politique au sein de ses institutions, Monsieur Mitterrand. Mitterrand, M. Chirac l'avait fait par exemple.
Donc quand des magistrats financiers s'inquiètent dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, qu'ils parlent de failles institutionnelles de la Ve République, ils ont raison de s'inquiéter ?
À titre personnel, oui, je crois qu'ils ont tout à fait raison de s'inquiéter, mais pour deux raisons. La première, elle est, je crois, plutôt propre à l'institution de la Cour des comptes. Elle pose la question du conflit d'intérêts. Strictement, juridiquement, il n'y a pas de conflit d'intérêts en l'état, dans la mesure où l'intérêt personnel de Madame Neumont-Chapelain ne rentre pas en collusion avec l'intérêt général. En tout cas, on n'a pas d'éléments. En revanche, si on élargit un peu la focale, là, alors c'est pas le terme juridique, conflit d'intérêts, mais ça peut alimenter un certain nombre de suspicions sur l'indépendance que doit revêtir cette institution Cour des comptes, et on comprend très bien, eh bien la teneur de la tribune et l'inquiétude, dans le sens où c'est une proche du pouvoir en place, et d'autant plus quelqu'un qui a élaboré les comptes publics et qui va, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, devoir les certifier. Donc, apporter la véracité, la sincérité aussi des comptes publics l'année prochaine. D'autre part, je pourrais dire que cette tribune, elle est aussi, je vais dans son sens, pour une raison, c'est qu'elle montre sur une nomination tous les errements et toutes les déséquilibres, en tout cas les dysfonctions de, non pas la Ve République et de sa constitution, mais plus de sa pratique institutionnelle.
Donc, elle sera moins à même de critiquer le gouvernement, c'est ce qu'on peut craindre ?
Je ne crois pas. Enfin, l'expérience montre que les différents profils politiques qui ont été nommés sur des postes au Conseil constitutionnel, Cour des comptes et peut-être demain au Conseil d'État vont sans doute mettre en œuvre ce que Robert Badinter appelait un devoir d'ingratitude, c'est-à-dire de montrer un peu des gages sur leur indépendance, et ça je n'en doute pas de sa part, mais le mal est déjà fait dans une certaine mesure. C'est un peu comme la théorie des apparences qui est promue par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'il ne faut pas simplement que le droit organise des mécanismes d'impartialité et d'indépendance, ce qui est le cas pour la Cour des comptes, il faut aussi qu'il y ait une apparence d'impartialité, et là, eh bien, le ver est déjà dans le fruit, puisque on a cette émission, enfin cet échange montre qu'il y a une suspicion.
Et c'est pas anodin non plus de la part d'Emmanuel Macron de nommer Amélie de Montchalin, qui a 40 ans. C'est un poste, un mandat irrévocable. Ça veut dire qu'elle peut rester 28 ans à ce poste. Il est irrévocable jusqu'à 68 ans.
Oui, comme un certain nombre de postes de magistrats, oui. Vous ne pouvez pas être révocable. Mais par exemple, au Conseil constitutionnel, il n'y a pas de révocabilité. En revanche, un nouveau président de la République élu pourrait non pas révoquer M. Ferrand, qui est actuellement le président du Conseil constitutionnel, mais pourrait décider, au moment où il nommera un nouveau membre, de changer de président du Conseil constitutionnel.
Finalement, cette nomination, elle montre que le président Macron est absolument libre de nommer qui bon lui semble ?
Alors non, il n'est pas juridiquement libre. La Constitution, en fait, prévoit un système parlementaire, c'est-à-dire que, en réalité, il est bien l'autorité habilitée, il a la compétence pour nommer. Donc c'est lui qui signe le décret de nomination. Mais ce décret n'a aucune validité, ne porterait aucun effet juridique si une condition formelle indispensable n'était pas remplie. C'est le contreseing du Premier ministre qui est prévu à l'article 19 de la Constitution. Ça veut dire que tout acte de nomination du président de la République doit être contresigné par le Premier ministre pour être valide. Et rien n'oblige le Premier ministre à aller dans ce sens-là. Mais la logique, c'est que le Premier ministre contresigne pour qu'il prenne la responsabilité politique de l'acte, notamment devant le Parlement. Et donc, rien n'oblige le Premier ministre à faire cela, mais rien n'oblige le Parlement à ne pas réagir vis-à-vis de cette nomination. Il pourrait très bien le contrôler. Mais il y a un phénomène de ce que Lucie Sponquiado, qui a fait la thèse qui fait autorité sur la compétence de nomination du président de la République il y a une dizaine d'années, disait, c'est qu'il y a un phénomène de captation du pouvoir de nomination qui est normalement dans les mains du Premier ministre parce qu'il a le pouvoir, il est responsable, au bénéfice d'un président de la République qui est juridiquement irresponsable.
Merci Thibault Mullier pour vos explications en direct sur France Culture. Vous êtes constitutionnaliste, je le rappelle, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre, chercheur du Centre de théorie et analyse du droit. Et je remercie Aloïs Guérin pour la préparation de cette interview.
Quelles sont les drogues les plus consommées par les Français ?
Une étude de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, permet de répondre à cette question. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Tara, le marché des stimulants est largement dominé par l'ecstasy, la MDMA et la cocaïne qui restent en bonne position, mais c'est bien le cannabis qui est le plus consommé.
Avec en France 5 millions d'usagers en 2023, ce marché pèse environ 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais les saisies sont en baisse, moins 19% entre 2023 et 2024. En revanche, la teneur en THC ne cesse d'augmenter dans le cannabis, plus 86% depuis les années 2012, à cause de nouvelles variétés hybrides introduites en particulier au Maroc. Vous le disiez Mathilde, cependant sur le marché des stimulants, la MDMA, qu'on appelle aussi ecstasy, est en forte progression. Depuis 2010, c'est la drogue dont la consommation a le plus progressé en valeur en France. 65 millions de comprimés auraient été vendus en 2023. Il faut ajouter que ces drogues de synthèse, comme la MDMA, sont produites aussi très largement en Europe. Selon l'ONU, 82% des pays identifiés comme étant à l'origine de la production ou des expéditions de ces drogues sont européens, avec des laboratoires notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en France aussi dans une moindre mesure. Et puis évidemment, la cocaïne figure en bonne place dans ce rapport. À l'échelle planétaire, c'est la drogue dont les volumes interceptés ont le plus augmenté, importée surtout de Colombie, plus généralement d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. En France, 47 tonnes ont été consommées en 2023 pour un chiffre d'affaires de 3 milliards qui a quasiment doublé en 5 ans. À noter que la cocaïne est de plus en plus pure, quand à l'inverse, presque toute l'héroïne est coupée, souvent avec du doliprane.
Merci Tara Schlegel. La drogue qui vient principalement des pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale, dont le Mexique. Mexique qui est secoué par des violences après l'élimination d'un chef de cartel. La France appelle d'ailleurs ses concitoyens basés dans ce pays à rester à l'abri, à limiter tout déplacement non essentiel. Depuis hier, des membres d'un cartel ont déclenché une vague de violences dans 20 états du pays après la mort de leur chef Nemesio Oseguera, dit El Mencho, lors d'une opération militaire. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour Mathilde.
Que sait-on de cet homme, El Mencho ?
Il était le baron de drogue le plus recherché du Mexique. Les États-Unis avaient même offert 15 millions de dollars, presque 13 millions d'euros, pour toute information menant à sa capture. Sur les avis de recherche, son portrait, un homme au regard dur, fine moustache brune et pommettes anguleuses. Ces dernières années, ce parrain de la drogue, de son vrai nom Nemesio Oseguera Cervantes, avait pris le dessus sur les cartels rivaux, affaiblis après l'arrestation de leurs dirigeants, notamment El Chapo et El Mayo. Il avait investi les marchés illégaux les plus lucratifs, trafic de drogue donc, en particulier les drogues de synthèse, mais aussi raquettes et vols de carburant, le tout à la tête d'une organisation ultra-violente, le cartel Jalisco Nouvelle Génération, équipé de lance-roquettes, de drones et de mines. Ce cartel n'a pas hésité à tendre une embuscade en pleine ville de Mexico au ministre de la Sécurité publique, qui en a réchappé de justesse. Des juges, des policiers, des militaires ont aussi été exécutés, à tel point que les États-Unis ont placé ce cartel sur la liste des organisations terroristes. Réputé très prudent, El Mencho se cachait dans les montagnes de la Sierra Madre, à 2000 mètres d'altitude dans l'ouest du pays. Il a été localisé avec l'aide du renseignement américain, selon la Maison Blanche.
Merci Frédéric Saïs, rédaction internationale de Radio France.
L'Union européenne ne pourra pas adopter de nouvelles sanctions contre la Russie aujourd'hui.
Et ce, à cause d'un veto de la Hongrie, dont le Premier ministre Viktor Orban est un proche du président russe. La Commission européenne envisage un 20e paquet de sanctions contre Moscou et voulait l'adopter avant les 4 ans du début de la guerre en Ukraine. C'était le 24 février 2022. 4 ans de guerre donc bientôt et 4 ans de campagne massive de désinformation de la part des Russes. Et ceux qui mènent cette propagande sur les réseaux sociaux sont placés sous sanctions par Bruxelles. C'est le cas de Diana Panchenko, ancienne présentatrice vedette de la télévision ukrainienne. Âgée de 38 ans, elle est passée à l'ennemi et ne vit plus en Ukraine. Elle est désormais interdite de voyage dans l'Union européenne. Ses avoirs ont été gelés en raison de son activisme pro-russe. Angélique Bouin.
Élue journaliste de l'année en Ukraine en 2020, la présentatrice travaille alors sur une chaîne ouvertement pro-russe.
My name is Diana Panchenko.
Longue chevelure brune, impeccablement coiffée, léger maquillage et regard acéré. Face caméra, Diana Panchenko est une vraie pro, désormais au service de la propagande du Kremlin sur les réseaux.
Aujourd'hui, l'Union européenne couvre le criminel Zelensky, couvre la corruption et empêche les discussions de paix de Trump. Le monde doit se réveiller.
bannie dans son pays, où elle est qualifiée de traître, la journaliste diffuse ses éditos sur X, anime des émissions de talk sur sa chaîne Telegram, 400 000 abonnés. Elle se fait inviter aussi comme experte sur les plateaux de chaînes YouTube amis. Ici, celle de l'écrivain norvégien pro-russe Glenn Diesen, traduite par l'IA en plusieurs langues, dont le français.
Il est évident pour tout le monde que cette guerre doit prendre fin. C'est la guerre la plus horrible que nous ne pouvions même pas imaginer il y a quelques années.
Une propagande bien organisée sur différents canaux et en plusieurs langues. Diana Panchenko diffuse aussi de fausses vidéos qui imitent délibérément les formats d'actualité pour légitimer le récit du Kremlin et qualifier de nazis les responsables ukrainiens.
Portrait signé Angélique Bouin. La cour d'appel de Hong Kong a confirmé aujourd'hui les peines d'emprisonnement de 12 militants pro-démocratie. Ils font partie d'un groupe de 45 militants reconnus coupables de subversion, emprisonné en 2024 pour avoir organisé une primaire officieuse de l'opposition avant les législatives. Il voulait que Karim Lam, la dirigeante pro-Pékin de l'époque, démissionne. Cela relève d'une arme constitutionnelle de destruction massive, selon le juge en chef de la Haute Cour, qui a donc confirmé leur peine. Francesca Albanese va-t-elle démissionner de son poste de rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens? C'est ce que va réclamer officiellement la France cette semaine lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il s'ouvre à Genève aujourd'hui en Suisse et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait dénoncé les propos outranciers et coupables de Francesca Albanese. Elle est accusée d'avoir désigné Israël comme, je cite, un ennemi commun de l'humanité lors d'une conférence en ligne organisée par le média Al Jazeera. Propos que la principale intéressée dément, Ajera Mohamed.
Francesca Albanese répète qu'elle ne démissionnera pas et affirme que ses propos ont été manipulés. L'ennemi commun qu'elle désignait n'est pas Israël, mais je cite « le système qui ne permet pas de faire cesser les crimes d'Israël ». Des explications peu convaincantes pour la France qui demande donc son départ, tout comme l'Allemagne, alors que l'Italie et l'Autriche ont également fait part de leur indignation et qu'elle est persona non grata depuis bien longtemps en Israël et aux États-Unis. Mais la juriste italienne compte aussi de nombreux soutiens. La semaine dernière, 150 personnalités ont signé une lettre ouverte, parmi elles des diplomates, des anciens ministres, des ambassadeurs. Ils accusent Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, de désinformation. Francesca Albanese pourrait bien rester en poste malgré ses appels à démission, car 47 pays au total sont représentés au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Plusieurs partagent ses positions sur la situation à Gaza. Elle a d'ailleurs été reconduite l'an dernier pour un second mandat en tant que rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens. Mandat prévu jusqu'en 2028.
Ajera Mohamed et Jean-Noël Barrot doit recevoir ce soir l'ambassadeur américain en France, Jared Kushner, au ministère des Affaires étrangères après les déclarations de ministres américains sur la mort du militant identitaire Quentin Derenque à Lyon il y a 10 jours.
Les investissements dans l'industrie repartent à la hausse après 2 années de baisse à travers le monde.
Oui Marie, selon le baromètre mondial des investissements Trendéo McKinsey, ils ont augmenté de 32% en valeur l'année dernière, tirés aux États-Unis par les constructions de data centers mais aussi par les secteurs de l'électronique et de la pharmacie. Dans ce baromètre, on voit que les États-Unis tirent leur épingle du jeu au détriment de la Chine, dont le volume d'investissement sur son territoire a été divisé par 12 en 3 ans. En fait, Camille Manière, Pékin investit désormais des dizaines de millions d'euros pour installer des usines à l'étranger.
En la matière, le secteur automobile est particulièrement parlant. Il y a 10 ans, un tiers des investissements réalisés en Chine étaient consacrés à ce secteur. Désormais, c'est 10 fois moins. Mais par contre, les sommes d'argent chinois investies dans des pays comme l'Indonésie, le Vietnam, le Maroc ou le Mexique explosent. Un changement de stratégie décrypté par Mathieu Dussud, directeur associé chez McKinsey Paris.
Les industriels chinois en fait réagissent à 2 tendances de fond. Un, le marché chinois est mature et saturé de production industrielle. Et 2, les entreprises chinoises essayent de se positionner au plus près des consommateurs européens et américains pour contourner les barrières douanières. Et donc on observe des investissements très forts au Mexique, au Maroc et dans les pays asiatiques d'Asie du Sud-Est pour construire des capacités de production, en particulier dans l'automobile.
Dans cette stratégie, le Maroc fait office de base arrière pour conquérir le marché européen. Le Royaume a vu les méga-projets d'usines se développer ces 3 dernières années, avec des investissements chinois cumulés qui frôlent désormais les 10 milliards d'euros. Principalement pour fabriquer des batteries, lithium, fer, phosphate, mais aussi des pneus ou autres équipements automobiles. De quoi assembler des véhicules qui ne seront pas étiquetés « made in China » et qui échapperont ainsi aux barrières barrières douanières imposées par les Européens comme par les Américains face à la concurrence que leur font les constructeurs chinois.
Camille Magnard. Trois départements sont toujours en vigilance rouge pour risque de crue. La Charente, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Même si la décrue s'y amorce lentement. Pour la météo, pas de pluie à prévoir aujourd'hui, sauf en Alsace et en Lorraine. C'est de la grisaille sur la moitié nord du pays, du soleil sur la moitié sud et des températures en hausse entre 10 et 18 degrés de maximal. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.